Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, il n'est pas encore 5h et oui, on est déjà là, hein, toujours fidèle à votre poste et fidèle à votre réveil. On est très heureux, comme chaque jour, de vous tenir compagnie en attendant que le soleil ne se lève.
Ça ne devrait pas tarder.
Oui, dans une heure, un peu avant 6h à peu près, oui, à la louche. À la une ce 19 mai, Julien. Oui, je sais pas, j'ai pas une passion éphéméride.
Un plan social d'ampleur, le premier à gérer pour Elisabeth Borne. Vallourec, le fabricant français de tubes, annonce la suppression de 3000 postes dans le monde, dont 320 en France. On va aller dans le nord, à Saint-Saulve, rejoindre notre correspondant dans quelques minutes.
L'actualité ce matin, Julien, c'est aussi un casse-tête pour les patrons d'hôpitaux.
Oui, le casse-tête des plannings estivaux, c'est compliqué chaque année, mais là, ça vire à l'impossible. Tant nos hôpitaux manquent de soignants. La preuve, c'est qu'avant même les vacances, nombre de CHU annonce la fermeture totale ou partielle de certains services, notamment leurs urgences.
La situation est tellement tendue que des infirmières et des médecins libéraux pourraient être réquisitionnés en juillet et août.
Oui, et autre piste sur la table, réintégrer les quelques 15 000 soignants suspendus, tous ceux, vous savez, qui refusent de se faire vacciner contre le Covid.
Nos hôpitaux vont-ils survivre à l'été? On en parle à 6h10, Julien, avec votre invité Frédéric Valtoux, le président de la Fédération Hospitalière de France.
De santé, il sera aussi question à 6h moins le quart, puisque l'Espagne veut accorder un congé menstruel.
Oui, un congé pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses et invalidantes. C'est une première en Europe. Le texte voté cette semaine prévoit que les jours d'arrêt de travail soient pris en charge par l'État. Cette disposition existe déjà dans certains pays asiatiques comme Taïwan ou le Japon.
Et si certains y voient une avancée du droit des femmes et une meilleure protection de leur santé, d'autres craignent que cela engendre des discriminations à l'embauche.
Oui, ce projet de loi sur le congé menstruel a fait même débat chez les féministes. On en parlera à 5h45 avec la journaliste Élise Thiébaud, autrice du livre « Ceci est mon sang ». Petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font.
Et qu'est-ce qu'il y a au menu de votre partition ce matin ?
Eh bien Elton John, l'album Honky Château qui fête ses 50 ans. Château comme le château d'Hérouville où il a été enregistré. Nous prendrons la direction du Val d'Oise dans la partition à 6h20.
Et ce sera 16 minutes après le lever du soleil, 6h04
pour
le lever du soleil. Oui,
ouais.
Oui, on a vérifié. On a vérifié. Merci. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Des records de chaleur ont été atteints hier.
Oui, il a fait très chaud. Hier, vous l'avez senti très lourd, c'était parfois même suffocant. 33,7 à Albi, c'est un record. 33,8 à Montélimar, c'est exactement la même température qui était elle-même un record en 2009, 24 mai 2009. Et 33,4 à Toulouse, c'est à Os Gore qu'il a fait le plus chaud hier dans les Landes avec 35,8 degrés. Ce mois de mai devrait être le mois de mai le plus chaud de l'histoire depuis que l'on enregistre les températures. Alors aujourd'hui, même si les orages étaient nombreux cette nuit et qu'on pensait que ces orages allaient faire baisser les températures, non, la présence des nuages fait que les températures très chaudes sont maintenues au sol. On a déjà 22 degrés à 5h à Paris, 20 à Besançon, 18 à Bordeaux. Aujourd'hui, le temps reste lourd et orageux sur la moitié nord. Donc Normandie, région parisienne, Hauts-de-France, c'est des orages toute la journée. Sur la moitié sud, c'est plus ensoleillé avec quelques passages nuageux.
C'est noté. Merci beaucoup Anissa Haddadi et à tout à l'heure pour une nouvelle météo. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h.
On n'arrivera plus à sauver nos emplois, ça on le sait très bien, c'est fini, c'est mort. Maintenant ce qui compte c'est que les gens partent avec des mesures décentes.
L'amertume de ce salarié de l'usine Vallourec de Saint-Saulve, le fabricant de tubes vient d'annoncer 3000 licenciements à travers le monde, dont une centaine dans l'usine nordiste. On le disait à l'instant, ce mois de mai pourrait être le plus chaud jamais enregistré et ça ne va pas arranger l'état de nos forêts déjà très inquiétant. Leur surface en constante progression n'est qu'une illusion. Et puis Roland Garros, pour 10 euros seulement c'est possible, mais dépêchez-vous, c'est unique pour les matchs de qualification. Nous serons en tribune en fin de ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Journal qui vous est présenté comme chaque matin par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Première semaine à Matignon, premier plan social pour Elisabeth Borne. Le couperet est tombé hier à Vallourec. Le fabricant de tubes sans soudure supprime 2950 postes dans le monde, 320 en France. À Saint-Saulve dans le Nord, 100 salariés resteront sur le carreau car leur usine va purement et simplement fermer, pas assez rentable. Une douche froide pour les ouvriers, même s'ils redoutaient depuis longtemps cette annonce. Le reportage de notre correspondant Lionel Gougelot.
J'aurais pas pensé finir comme ça au bout de 27 ans. Ça fait mal.
La gorge nouée par l'émotion, Philippe accuse le coup. L'annonce de la fermeture de cette tuberie, c'est l'épilogue de plusieurs années d'un long déclin, constate fataliste son collègue Frédéric.
Vous voyez que ça fait des années qu'il y a des restructurations et puis nous on voit l'activité qui baisse d'année en année et à un moment donné vous vous dites voilà, c'est une fatalité quoi.
Une centaine de salariés sur le carreau, dépendant de la production des usines allemandes fermées sans repreneur, le site de Saint-Solve paye le plus lourd tribut en France des décisions de Vallourec.
La faute que les grands patrons s'en vont dans les pays étrangers pour gagner plus d'argent et puis nous ici en France, en Europe, nous laisser en bas quoi. Mais moi je pensais finir ma carrière quand même à Vallourec quoi. Et moi l'industrie je veux plus entendre parler.
Le groupe assure vouloir trouver des solutions de reclassement ou de départ anticipé pour les salariés, mais Michael Tison, délégué CFDT, attend lui un plan digne de ce nom.
On n'arrivera plus à sauver nos emplois, ça on le sait très bien, c'est fini, c'est mort. Maintenant ce qui compte c'est que les gens partent avec des mesures décentes quoi, des mesures d'accompagnement et l'ensemble des salariés est prêt à faire l'effort de continuer la production jusqu'à la fin.
De Vallourec en France, il ne restera plus que l'usine d'Aulnoy-Aymeries près de Maubeuge et ses 900 salariés, un fief historique du groupe, sans garantie pour l'avenir, selon les élus locaux et les syndicats. À Saint-Solve, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et justement, sur le site d'Aulnoy-Aymeries, dont vient de nous parler Lionel, Bercy a exigé hier soir un renforcement du pôle de forge, filetage, recherche et développement.
Et de son côté, Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, indique qu'une réunion d'urgence aura lieu demain avec les représentants des salariés, élus locaux et direction.
C'est une histoire dont nous sommes nombreux à nous souvenir, elle avait ému la France entière.
On parle de ce chauffeur de bus tué à Bayonne il y a 2 ans, Philippe Monguillot.
Initialement accusé de meurtre aggravé, les 2 prévenus échappent à la cour d'assises. Ils seront finalement jugés pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est ce qu'a décidé le juge d'instruction hier et c'est inacceptable pour maître Alexandre Novion, avocat de la veuve du chauffeur et de ses 3 filles.
Cette décision choque parce que elle est une décision qui va immuniser quelque part les auteurs de l'obligation de se justifier de leurs intentions. Il est question dans ce dossier de violences qui se sont articulées entre elles, qui ont déjà eu pour résultat de mettre ce chauffeur de bus au sol, où il va recevoir tout un tas de coups d'une violence extrêmement importante, centrée vers la tête, vers le visage. Des gens qui, tout en proférant des coups, ont parlé de finir l'intéressé, l'intention criminelle. Ça peut être aussi la conscience qu'en frappant quelqu'un, qu'en lui donnant des coups comme des pénalties au niveau de la tête, on puisse faire éclater sa voie crânienne ou participer à un processus de venue de la mort. Comment l'avocat que je suis peut admettre que des gens qui ont fait preuve d'une si grande violence disposent d'un refuge et d'une possibilité de parler d'une violence sans but? C'est on se demandait d'ailleurs s'ils vont accepter l'idée qu'ils aient pu vouloir faire du mal.
Maître Alexandre Novion, joint pour Europe 1 par Nina Droff.
Europe 1, il est 5h04.
C'est agréable, hein ? Le vent dans les feuilles, les oiseaux qui chantent. Ce matin, promenons-nous dans les bois. Il n'y a jamais eu autant d'hectares à parcourir et à découvrir. 17 millions partout en France, soit un tiers de notre territoire. Grâce à nos forêts, la France est le 4e pays producteur de bois. Louise Salé, ça veut dire que tout va bien, j'imagine ?
Alors attention, c'est trompeur, la forêt se porte bien mais elle souffre de crises de plus en plus régulières. On en verra les effets que dans plusieurs années, explique Jean-Michel Servant. Il préside France Forêt Bois qui rassemble les acteurs de la filière.
La forêt française, elle est très menacée par le changement climatique, comme toutes les forêts européennes, qui se traduit par des attaques liées à l'évolution du climat, comme les sécheresses estivales, le déficit hydrique. S'ajoutent en fait des menaces de type sanitaire, c'est-à-dire que les arbres sont en situation de stress et sont plus vulnérables à des attaques de type insectes ou champignons.
La solution, planter différents types d'arbres, différentes essences pour plus de résistance. Un travail compliqué. François Morneau est conseiller technique de l'inventaire forestier de l'IGN.
On a beaucoup d'incertitudes sur la capacité d'un ensemble d'essences à tenir, avec une vraie difficulté qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un arbre, évidemment, il vit longtemps et il faut qu'à la fois, on arrive à installer une espèce qui peut pousser dans les conditions actuelles. Il faut aussi que ces espèces-là soient capables de produire du bois, de faire des arbres et des forêts pendant 50, 100 ou 150 ans.
Les nouvelles essences ne vont pas forcément toutes convenir, mais il vaut mieux tester quitte à se tromper plutôt que de subir un dépérissement probable des espèces actuelles.
Merci Louise Salé. Toute la matinée sur Europe 1, on reparle de l'état de nos forêts en partenariat avec le Pèlerin Magazine qui sort aujourd'hui.
Climatiseur à fond, ventilateur dans la chambre, fenêtre ouverte, voire tête dans le congélateur. Tous les moyens étaient bons hier pour trouver un peu de fraîcheur.
C'est sûr, hein, partout en France, on l'a tous constaté, il a fait très chaud à Nice. Elle disait, on a d'ailleurs battu des records de température dans plusieurs villes. 33 33 degrés 7 à Albi, 33,4 à Toulouse ou encore 33,8 à Montélimar. Pour la 38e journée de suite, le mercure était plus élevé que les normales de saison.
Porte d'Auteuil à Paris, il a aussi fait très très chaud. Oui. Sur les cours de Roland-Garros, c'est d'ailleurs ce soir qu'auront lieu les tirages au sort.
Des duels au sommet qui seront évidemment à suivre sur Europe 1, radio partenaire du tournoi. Mais en attendant le début officiel de la compétition qui aura lieu dimanche, le public peut déjà venir assister au match de qualification depuis lundi. L'occasion de passer un super moment à moindre coût, 10 à 20 euros le billet. Axel May a enfilé son plus beau polo pour y assister.
Les petites balles jaunes fusent sur les terrains annexes de Roland-Garros. Depuis le début de la semaine, 256 joueuses et joueurs de toutes nationalités tentent de franchir les trois tours de qualification afin de disputer le tournoi principal. Ce couple de Québécois profite de ses vacances à Paris pour passer une journée porte d'Auteuil.
Oh, écoute, c'est excitant, moi, je trouve. Puis on n'est pas habitué de voir aussi du tennis sur terre battue chez nous. C'est merveilleux.
Et beaucoup de monde pour des qualifications. C'est surprenant. Là.
Quand des Français sont sur les cours, le public est volontiers un brin chauvin. Le jeune Sean Quenin a gagné ses deux premiers matchs de qualification.
Quand on est petit, qu'on regarde des matchs à la télé à Roland-Garros, on entend tous voilà, des cris des supporters. Le fait que ça soit dans la vie réelle et sur mon cours, c'est vraiment agréable.
Cette semaine, le public a aussi pu voir en qualification l'Allemand Kohlschreiber, 38 ans, l'Espagnol Verdasco, même âge, ou encore l'Italienne Errani, finaliste ici même il y a 10 ans, désormais trop mal classée pour accéder directement au tableau principal. Le cours central où s'entraînent les stars est même ouvert aux spectateurs. Hier soir, ils étaient plusieurs milliers à assister aux puissantes frappes de Raphaël Nadal.
Axel May, et aujourd'hui un Français sur les cours, on l'a entendu dans ce reportage, Sean Quenin, il doit rencontrer en fin de matinée l'Italien Giulio Zeppieri. On ne vous présente plus cette musique, puisqu'on termine ce journal avec le Festival de Cannes et cette arrivée spectaculaire de Tom Cruise hier en hélicoptère pour présenter Top Gun Maverick, la suite du film culte sorti dans les années 80, attendu depuis des décennies, si bien qu'il a reçu juste avant la projection du film une palme d'or surprise. Pour le grand public, Top Gun Maverick sort mercredi prochain au cinéma avec Europe 1, l'occasion de revoir le premier volet ce week-end pour ceux qui souhaitent se remettre dans l'ambiance.
Absolument, c'est une très bonne... Très bonne idée. Ça, c'était un top. C'était un F14. Ouais, absolument. C'est un F14 Tom 4 dans le premier volet. Et là, c'est des F18 dans le deuxième. Hein, vous avez d'autres questions comme ça?
Non,
allez,
c'est bon.
Merci Alban Le Prince. À bientôt.
On va passer aux courses, hein, s'il vous plaît. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses en semi-nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Et mon pari gagnant sera le 303 Botanique. Titulaire de 4 victoires en 8 tentatives, il n'a pas raté sa rentrée après 5 mois d'absence le 22 avril à Compiègne en s'imposant très facilement. Je le sais encore mieux le matin à l'entraînement. Il devrait donc sur sa lancée confirmer et ajouter ainsi un 5e succès à son palmarès. Notez bien, pour ce soir en semi-nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, dans la 3e course, le numéro 3, Botanique.
Le numéro 3, c'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger. Et on vous retrouve dans une demi-heure à présent pour les pronostics du Quintet. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Il est 5h10 et si mes comptes sont bons... On est bien trois autour de la table pour le pressing. Bonjour Martin Lange.
Oh, qu'est-ce qu'elle est chouette. Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Oh là là. Merci et bonjour Martin. Je suis scié par tant de lucidité.
Mon talent de calcul mathématique, absolument. On va en parler dans un instant.
Des euros justement du calcul, il y en a à la une du Parisien aujourd'hui en France. Inflation, ceux qui souffrent un peu, beaucoup, titre Le Quotidien. Les prix ont augmenté en moyenne de 4,8% sur un an, mais tous les Français ne le vivent pas de la même façon. Les plus touchés, les classes moyennes, les habitants des zones rurales et les personnes âgées selon Le Quotidien. Un tout autre sujet à la une de Libération, sujet qu'on va d'ailleurs aborder à 6h10 avec le président de la Fédération hospitalière de France. Les urgences en PLS, c'est le titre à la une de Libé avec pour illustration un soignant visiblement épuisé. Faute de personnel, les admissions de nuit ou le week-end deviennent compliquées, voire impossibles dans plusieurs hôpitaux. On termine avec ce reportage édifiant que consacre en une Le Figaro. Son titre, Kharkiv, théâtre de nouvelles atrocités russes. Après les crimes de guerre découverts au nord de Kiev, on pense à Boutcha. L'armée de Poutine a continué ses exactions autour de la seconde ville du pays. Omblin, quel article avez-vous avez-vous sélectionné ce matin?
Depuis le début de la guerre en Ukraine, près de 16 000 enfants qui ont quitté précipitamment leur pays sont scolarisés en France. On les retrouve surtout dans les classes de primaire et quelques semaines ont suffi pour remarquer que les élèves ukrainiens sont meilleurs que leurs petits camarades français en maths.
Ah,
justement,
comme vous.
C'est dans le Parisien aujourd'hui en France.
Jusqu'à 3 aussi.
Attends, bien plus. Au moins 5. Malgré la barrière de la langue, l'enseignement de maths dispensé à l'école élémentaire, eh ben c'est facile, disent les jeunes ukrainiens. En fait, à âge égal, le niveau est supérieur à celui des élèves français. Ils ont au moins un an d'avance. Une enseignante remarque qu'ils savent réaliser des choses, dit-elle, que certains de ses élèves ne savent toujours pas faire depuis septembre dernier. Ça s'explique simplement par le fait que le programme est différent. À 9 ans, en Ukraine, donc l'équivalent du CM1 chez nous, ils apprennent la division et la multiplication des nombres à 3 ou 4 chiffres par des nombres de 2 ou 3 chiffres, quand nous, on divise des nombres à 2 chiffres par ceux à un seul chiffre. 20 divisé par 4...
5.
C'est bien.
Nous avons mis une anti-sèche. Là, on est nul, mais pas à ce point quand même.
2587 divisé par 963.
23.
Voilà. Vous êtes bien français. Hein. Il faut savoir que l'enseignement en Ukraine est très orienté vers le calcul et c'est un héritage, figurez-vous, de la période soviétique et de l'école russe de mathématiques. Ils ont tout misé sur les sciences, mais surtout sur la technique, sur un prof de maths français. Un prof de maths en France, et ils ont moins misé sur le raisonnement. Autre constat à propos de ces élèves ukrainiens bons en maths, ceux qui sont arrivés en France ces derniers mois sont issus de milieux plutôt favorisés, ayant souvent de la famille déjà installée dans notre pays. Ils étaient scolarisés donc dans des bonnes écoles en général, bien sûr. Car l'article se termine en fait par un paradoxe. Dans les classements internationaux des écoliers, en 2019, la France s'est classée 23e et l'Ukraine 39e, et il n'y a pas que les maths qui sont évaluées hein, dans ces tests, hein, mais aussi la compréhension à l'écrit et la culture scientifique. Sachez que la Chine est très 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 loin devant. Les jeunes Ukrainiens réfugiés en France nous donnent en tout cas une leçon de maths. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France.
Merci beaucoup Omblin. Martin, à vous.
Oui, ce matin, je vous présente qui doit être la pire équipe de foot de France. L'association sportive Réinvillers Eriménil, un petit club de Meurthe-et-Moselle qui enchaîne les déculottés depuis le début de saison. Vous parliez de maths. Omblin, voilà une petite suite de chiffres assez sympathiques. 11-0, 7-0, 21-0, 14-0, des scores qui donnent le tournis. Dernier exemple en date, le week-end dernier, hein, l'AS a pris 40 buts contre Champignoles. Vous avez bien entendu, un 40 buts, 1 toutes les 2 minutes. L'entraîneur Christophe Barret préfère...
Contre Champignoles.
Champignoles, oui, exactement. fameuse équipe. L'entraîneur Christophe Barret préfère en sourire. Ça doit être un record possible, tout comme les 186 buts encaissés depuis le début de saison.
Mais ils le font exprès.
En à peine 20 matchs. Attendez, ça arrive. Ah. Ça fait plus de 9 par match. Le tout pour à peine 8 buts marqués. On est un peu la risée, déplore le coach de cette équipe de première division départementale. C'est l'équivalent du 9e échelon national.
Alors, je me joins à Julien. Comment on fait? Comment en sont-ils arrivés là?
Eh bien, ils ont quand même des circonstances atténuantes. Hein. Déjà, ils jouent sans doute à un niveau trop élevé pour eux. Bon, vous l'auriez deviné. Oui. Mais ça fait déjà 2 saisons que l'AS Réinvillers Eriménil passe tout près de la relégation. Ça leur pendait au nez. Et puis, à force de prendre des pilules, comme dit leur coach, beaucoup de joueurs se sont démotivés. Dimanche dernier, hein, lors de leur défaite historique, ils n'étaient que 8 sur le terrain. Et encore avec un blessé qui était là pour faire le nombre. Parce que sans lui, le club aurait dû déclarer forfait et payer une amende. Au début de la saison, l'effectif était suffisant, mais face aux mauvais résultats, beaucoup de joueurs ont quitté le navire. Ils préfèrent rester chez eux. L'équipe réserve en 3e division départementale a déjà été arrêtée cet hiver. Certains des joueurs ont été promus.
Ah oui, c'est la grosse déprime.
Mais ils commençaient à peine le foot. Ils ne savaient pas faire une touche et ne connaissaient pas la règle du hors-jeu. C'est vrai que c'est compliqué. Hein, Christophe Barret. Alors, l'entraîneur ne leur en veut pas. Il salue même ceux qui sont restés jusqu'au bout.
Il doit jouer lui aussi.
Non, il joue pas. Non, il joue pas. Il aurait pu pour faire le 9e. Alors, dans 2 journées, leur calvaire sera terminé, Réinvillers-Eriménil sera relégué. Le club repartira-t-il l'an prochain? Rien n'est moins sûr, en tout cas ça sera sans leur entraîneur qui gardera en tête quand même la seule victoire de l'année. Ça date, c'était en septembre, 2-1, un score presque normal dans une saison qui ne l'était pas. Meurthe-et-Moselle, quelle est cette équipe qui enchaîne les tôles? C'est sur le site de 20 minutes.
Bon. C'est tellement difficile.
On leur envoie beaucoup de courage.
On pense à eux, surtout ceux qui sont restés. Ceux qui sont restés sur le canapé, moins de courage.
C'est vrai.
Merci Martin. J'ai choisi pour ma part un article du Figaro qui va grandement intéresser les 40 ministres et secrétaires d'État de Jean Castex, vu qu'une bonne partie d'entre eux devraient faire leur valise, peut-être même dès aujourd'hui. Les avantages que conservent les ministres sortants et ceux qu'ils perdent, c'est le titre de cet article qui, au passage, tacle certaines croyances qui ont la vie dure. Non, les anciens ministres et secrétaires d'État ne touchent pas un salaire à vie. Leurs droits sont même bien plus limités que pour vous et moi, puisqu'ils n'ont pas le droit de toucher au chômage à la suite d'un remaniement qui les aurait laissés sur la touche. En revanche, ils peuvent percevoir pendant 3 mois une indemnité équivalente au traitement qu'ils recevaient au gouvernement, soit 9 940 euros bruts par mois pour un ministre, 9 443 pour un secrétaire d'État et 14 910 euros pour un premier ministre. Des montants conséquents pour le commun des mortels, mais qu'il faut ramener aux responsabilités et à la charge de travail écrasante que représentent ces fonctions. Avoir un emploi du temps de ministre n'est assurément pas une expression exagérée. Au passage, les salaires touchés au gouvernement étaient bien supérieurs avant que François Hollande ne prenne un décret au début de son quinquennat pour les raboter de 30%. Tout de même, l'indemnité de départ, elle aussi, a été sabrée par le président socialiste. Elle est passée de 6 à 3 mois de salaire. Et encore, 2 limitations en cas de cette rémunération. Elle n'est versée que si le ou la ministre ne reprend pas une activité rémunérée d'emblée. Et il ou elle peut même en être privé en cas de déclaration de patrimoine manquante ou incomplète à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Quitter le gouvernement, c'est aussi faire une croix sur tous les avantages matériels. Fini donc le logement de fonction, qui peut ou non être pris, hein, c'est pas obligatoire, l'accès gratuit au transport ferroviaire en première classe et la mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur. Seuls les ex-ministres dits régaliens, c'est-à-dire intérieur, affaires étrangères, justice et défense, peuvent se voir accorder au cas par cas une protection policière pour des raisons de sécurité. L'ex-garde des Sceaux, Christiane Taubira, a par exemple conservé pendant plusieurs semaines des officiers de sécurité après son départ de la place Vendôme en 2016. Le Premier ministre a, lui, quoi qu'il arrive, un statut particulier. Si les anciens locataires de Matignon ont droit eux aussi à une indemnité de départ, équivalente là aussi à 3 mois de salaire, ils conservent, à la différence de leur ministre, d'autres avantages. Par exemple, Jean Castex va bénéficier à vie, s'il le souhaite, d'un véhicule de fonction avec chauffeur, ainsi que d'un secrétaire particulier pendant 10 ans. Notez toutefois que les anciens chefs de gouvernement disposant déjà d'un secrétariat ou d'une voiture de fonction dans le cadre d'autres fonctions publiques ne peuvent pas cumuler les avantages. Ouais. Impossible donc d'avoir un chauffeur particulier à Paris, puis un autre à la campagne. Et là, je sens que les ambitions ministérielles Blin vient de voler en éclats. Salaire, voiture, les avantages que conservent les ministres sortants et ceux qu'ils perdent, c'est à lire sur le Figaro.
Merci Julien et merci à vous également Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin.
Blin Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1, les principaux titres. Alban Le Prince.
On a suffoqué hier, record de température dans plusieurs villes, 33 degrés 7 à Albi ou encore 33 degrés 4 à Toulouse. Pour le 38e jour de suite, les températures ont été supérieures au normal de saison. À un peu plus de 3 semaines des élections législatives, la NUPES de Jean-Luc Mélenchon en tête des intentions de vote du premier tour à 0,5 points de la majorité réunie derrière la bannière Ensemble qui sortirait néanmoins vainqueur au second tour, résultat d'un sondage Elab publié hier. Forte justement de ces sondages, la NUPES se réunit en fin de matinée à 11h pour présenter son projet de gouvernement dans le cas où elle obtiendrait tout de même une majorité au second tour. Nouvelle journée d'entretien pour Elisabeth Borne qui cherche à constituer son gouvernement. La première ministre a reçu hier Édouard Philippe, Bernard Cazeneuve et François Bayrou. Et puis un chanceux dans les Landes, un joueur du loto, a remporté hier soir 16 millions d'euros.
Europe 1. Vous avez la parole chaque matin sur Europe 1. Ce sont les initiatives en France.
Bonjour Raja El Arak.
Bonjour Julien.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Vous êtes la fondatrice de Vibia, une application de réservation de chauffeurs qui sera bientôt en ligne. Et c'est tant mieux car elle s'attaque à un problème bien connu, le transport de personnes à mobilité réduite. Expliquez-nous.
Oui, tout à fait, à ce public. Pour expliquer un peu d'où vient ce projet, en fait, je suis moi-même en situation de handicap, je me déplace en fauteuil roulant électrique et suite aux difficultés que je rencontrais dans mon quotidien à trouver un transporteur adapté, je me suis dit que c'était bien quand même d'avoir une application qui permet de les référencer et du coup d'être accessible aux personnes qui en ont besoin.
Vous faites le constat au quotidien que c'est un calvaire quand on est dans votre situation, quand on est à mobilité réduite, de se déplacer aujourd'hui en Île-de-France ?
Mais complètement, parce qu'en fait, les transports transports en commun sont loin d'être complètement accessibles. On a un métro, par exemple, sur les 14 qui l'est. On a des problèmes techniques, tels qu'un ascenseur en panne, des agents qui peuvent être pris sur une autre mission et du coup pas être disponibles au moment où on arrive. Du coup, voilà, pas terrible en ce qui concerne le transport en commun. Et quand on veut faire appel à un transport privé, bien malheureusement, l'offre, elle est dispersée sur le marché. Et ce qui fait que, voilà, on peut appeler différentes personnes qu'on connaît pour avoir éventuellement avoir accès à un taxi ou un VTC, etc. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est d'où l'idée de créer quelque chose qui pourrait justement regrouper ce type de transporteurs et le centraliser pour les personnes en situation de handicap.
Et quand il existe des taxis ou des VTC à même de pouvoir vous prendre en charge, certains chauffeurs, une fois arrivés sur place, refusent de vous prendre en charge parce qu'il y a un fauteuil, parce qu'il est trop gros, pour X raisons.
Il y a des taxis qui sont adaptés pour les personnes qui sont en situation de handicap. En effet, il y en a. Après, il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Et après, il y a des transporteurs classiques. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes, par exemple, typiquement, qui vont avoir un chien guide, qui vont avoir un fauteuil roulant manuel, mais qui vont pouvoir se déplacer, se mettre debout pour se mettre dans le véhicule. Quand ils arrivent parfois face à certains chauffeurs, je ne vais pas dire que c'est de la méchanceté forcément, mais parfois, voilà, ils refusent parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils se disent, bon, un fauteuil roulant, c'est compliqué. Comment je vais faire pour le plier, le mettre dans le coffre? Est-ce qu'un chien guide ne va pas salir ma voiture, etc. Et du coup, voilà, ce qui fait qu'il y a certaines personnes, en fin de journée, font face à des refus au moment où ils veulent être transportés. Après, et moi, en fauteuil roulant...
J'imagine que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus vous avez de refus, moins vous avez envie de sortir, au final.
C'est exactement ça, parce que bah, déjà, une personne, par exemple, en fauteuil roulant, elle a un problème de mobilité de base. Ça veut dire que déjà, elle éprouve des difficultés à se déplacer. Si vous lui rajoutez ce type de problème, en fait, finalement, elle se dit, bon, bah, j'y vais pas, j'envoie quelqu'un, et finalement, bah, elle se retrouve à rester chez elle et à faire moins de choses, du coup, à être moins dans la vie sociale.
Voilà pourquoi donc vous avez créé Vibia, cette plateforme de réservation que vous allez lancer, je crois, le 30 mai, dans un peu moins de
exactement.
Deux semaines. Comment va-t-elle fonctionner exactement ?
En fait, elle va fonctionner comme les applications classiques qui se trouvent sur le marché aujourd'hui. C'est juste qu'elle va être orientée vers les personnes en situation de handicap, enfin des personnes à mobilité réduite, pas qu'en situation de handicap, parce que ça peut concerner des personnes âgées, des femmes enceintes, etc. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on trouve qu'on a besoin d'un accompagnement spécifique, d'être là avec des chauffeurs que j'appelle un peu compagnons.
Et cette application est adaptée aux malvoyants, on le précise, c'est bel et bien le cas ?
Tout à fait. L'idée, en fait, c'est qu'on a une police spécifique, donc c'est une police Luciole. Elle peut être lisible par les lecteurs d'écran pour qu'elle soit utilisée par les personnes qui ont une déficience totale. Tous les chauffeurs avec qui nous travaillons ont une formation TPMR et qui sont déjà engagés dans ce type de transport. Donc du coup, il n'y a aucun risque de tomber sur quelqu'un qui peut vous refuser.
C'est quoi une formation TPMR ?
En fait, c'est une formation que passent les chauffeurs. En fait, TPMR, c'est-à-dire transport de personnes à mobilité réduite. C'est une formation qui passe sur 2-3 jours, qui leur explique un peu ce qu'est les différents types de handicap, comment attacher un fauteuil, c'est quoi l'attitude à avoir, le comportement à adopter quand on est face à ce type de public.
Et tous disposent d'un véhicule permettant de transporter une personne en fauteuil, généralement des vannes avec une rampe ?
Exactement. Après, tous ne le sont pas. Et c'est vrai qu'on associe souvent le handicap à une personne qui est en fauteuil roulant. Pas que. Il y a des personnes qui sont formées, mais qui ont des voitures classiques. Voilà, qui peuvent prendre des personnes qui sont malvoyantes, des personnes qui ont des déambulateurs, des cannes, etc. L'idée, c'est d'avoir plusieurs types de véhicules pour ne pas figer en fait, ces voitures qui ont des rampes. Et des personnes qui ont besoin de voitures avec rampes, qui ne les trouvent pas. Et c'est bien qu'aujourd'hui, des personnes qui n'ont pas besoin, qui passent par d'autres moyens pour les libérer pour ces personnes.
Des chauffeurs, vous en recrutez encore à l'heure actuelle ? Vous en avez besoin de davantage ?
Oui, complètement. Alors, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est en formation TPMR, qui n'hésite surtout pas à nous contacter, si on met un peu de temps à répondre, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes en ce moment, mais voilà, mais on va tous y répondre et on est en train de travailler dessus et on en cherche le maximum, parce que l'idée, c'est de quand même de couvrir toute l'Île-de-France dans un premier temps, et plus on en a, mieux c'est.
Oui. L'Île-de-France dans un premier temps et éventuellement le reste du pays dans un deuxième temps ?
Tout à fait. En fait, il y a des villes qui sont encore moins accessibles que Paris, notamment je veux dire Marseille, par exemple, qui a des grands problèmes de transport pour les personnes en situation de handicap. Et pourquoi pas aller dans sur ces villes en fait, où il y a un vrai besoin, où les gens sont en attente. On reçoit vraiment des mails de personnes un peu de partout en France qui sont en attente de ce type d'application. Donc, on a hâte.
Est-ce qu'une course sur Vibia coûtera fatalement plus cher que sur les autres plateformes ?
Alors, c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais pas tant que ça. L'idée, c'était, aujourd'hui, les transporteurs, en fait, ils investissent dans des véhicules qui coûtent plus cher. Ils font une formation. Prendre en charge quelqu'un qui est en situation de handicap, ça prend un peu plus de temps que quelqu'un de lambda. Donc, l'idée, c'était aujourd'hui de trouver un tarif qui est juste entre ce qu'un client peut payer et ce qu'un chauffeur peut accepter. On est sur des tarifs de taxi, tranche haute, mais ça reste quand même on est quand même sur un tarif plutôt raisonnable par rapport à un transport spécialisé qui va demander beaucoup plus d'argent.
Merci beaucoup, Raja El Harrak, de nous avoir présenté Vibia, l'application de réservation de chauffeurs spécialisés dans la mobilité réduite. Elle sera donc disponible d'ici quelques jours, le 30 mai. On vous souhaite beaucoup de succès et on vous dit à bientôt.
Merci beaucoup pour votre invitation. À très bientôt. Merci beaucoup.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil, merci de choisir Europe 1. Dans un instant, le journal de 5h30 de Lénaïc Monnier, où l'on ira à Cannes saluer un certain Tom Cruise. Direction ensuite l'Espagne, qui a autorisé cette semaine un congé menstruel aux femmes souffrant de règles douloureuses.
Oui, c'est une première en Europe et beaucoup voient dans cette décision du gouvernement espagnol une avancée du droit des femmes. Le texte fait cependant débat. Et pour ses détracteurs, le congé menstruel risque de stigmatiser davantage les femmes au travail, notamment lors de l'embauche. On sera dans un quart d'heure avec la journaliste Élise Thiébaud qui signe le livre « Ceci est mon sang ». Petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font.
Et juste après, on va parler huile végétale avec Olivier Pouls.
Oui, vous ne trouvez plus d'huile de tournesol dans les rayons de votre supermarché. Eh bien, Olivier vous conseillera d'autres huiles françaises.
Mais avant la météo avec Anissa Haddadi, et c'est un jeudi orageux qui s'annonce.
Oui, principalement sur la moitié nord du pays, hein, où le ciel est bien plus nuageux qu'hier, avec des averses passagères entre la Normandie, la Bretagne, les Hauts-de-France, la région parisienne. Voilà, des averses qui seront même parfois accompagnées d'un coup de tonnerre. Cet après-midi, les orages vont se décaler vers l'est du pays. Attention, hein, par endroits, les orages seront localement forts. On attend de la grêle, des rafales de vent, des gros coups de tonnerre. Alors il faut savoir que ça va concerner tout le grand quart nord-est, donc des Ardennes jusqu'aux Alpes et même jusqu'à la région parisienne. Donc voilà, c'est assez agité cet après-midi. Ailleurs, c'est le soleil qui domine hein, sur toute la façade ouest du pays et puis sur la moitié sud, avec un vent de sud-est qui souffle sur la Provence, le massif central, la vallée du Rhône jusqu'à 70 km/h. Il fait doux encore ce matin, 10 degrés à Brest, 12 à Lorient, 15 pour Ajaccio, 19 à Paris et 20 à Nice. Cet après-midi, on va mieux respirer qu'hier avec 19 à Dunkerque, 22 pour Amiens, 26 à Paris, 29 à Marseille. Il fait toujours chaud sur la moitié sud, 32 à Clermont-Ferrand, 33 à Cahors.
Et c'est demain que ça va retomber ?
Demain, on va encore avoir un temps avec quelques passages orageux sur la moitié nord. Et à partir de ce week-end, ça va un peu mieux pour un nouveau coup de chaleur la semaine prochaine. Attention, on retourne autour des 30 degrés la semaine prochaine.
Bon, merci beaucoup Anissa Haddadi et pour toutes ces informations. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une ce matin, Tom Cruise enflamme la croisette. La star a présenté hier son film Top Gun Maverick à Cannes. Reportage dès le début de ce journal. À quand le gouvernement Borne ? La première ministre prend son temps et surtout elle consulte énormément pour ne pas rater son casting, nous dira Jacques Serret. Et puis, sale temps sur les forêts de France, fragilisées par la sécheresse, abattues par l'industrie. Comment sauver notre meilleur allié contre le réchauffement climatique ? Europe 1 s'associe au Pèlerin Magazine pour un dossier spécial ce matin.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 5h30 vous est présenté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Julien, bonjour à tous. On n'était pas peu fiers hier d'être associés à l'événement avec un grand E de la soirée à Cannes. Tom Cruise, tout sourire, smoking noir, de retour sur le tapis rouge du Palais des Festivals pour la première fois depuis 30 ans. Et tout ça pour la projection de Top Gun Maverick dont nous sommes partenaires. Marie Jiquel, sacré coup de chaud hein, sur la croisette quand la star a débarqué de son hélicoptère.
Et oui, hier sur la croisette, n'ayons pas peur des mots, on est tous tombés amoureux de Tom Cruise, à commencer par la direction du Festival de Cannes qui lui a remis une palme d'or d'honneur surprise en tout début de soirée.
Cher Tom Cruise, sommes heureux et fiers de vous décerner cette palme d'or d'honneur.
On a senti Tom Cruise très ému, déjà lors de sa masterclass durant laquelle il s'est confié sur son goût du risque et son amour pour les cascades.
Je devais avoir 4 ans et j'avais une sorte de poupée avec un parachute. J'ai voulu faire pareil. J'ai pris les draps de mon lit, je suis monté sur le toit. Et vous savez, c'est au moment de sauter que l'on se dit « ça ne va pas marcher, je vais mourir en fait ».
Un entretien, déclaration d'amour au cinéma et à ses fans. Il s'est arrêté longtemps sur le tapis rouge pour les saluer, signer des autographes. Rattrapant 30 ans d'absence, les cœurs des festivaliers ont chaviré.
Ça fait bizarre de voir sa star en vrai, enfin, donc voilà, très ému. Voilà.
C'est vraiment un événement et il est génial, il est tellement avenant. Et ouais, hâte de voir le film.
Un accueil en grande pompe, survol de la patrouille de France, long standing ovation après la projection de Top Gun Maverick, un feu d'artifice et même les sirènes des bateaux du port de Cannes.
Voilà le comité d'accueil à Cannes. Il y a une avant-première ce soir sur les Champs-Élysées à Paris. Et puis sinon, pour revoir Tom Cruise, son t-shirt blanc, ses lunettes aviateurs dans Top Gun Maverick, il faudra attendre mercredi prochain.
Oh, que c'est long, que c'est long. L'actualité politique à présent, que c'est long aussi. Le gouvernement Borne n'est toujours pas connu.
Non, la première ministre prend son temps. Elle réfléchit toujours à la composition de son futur gouvernement. Hier, elle a poursuivi ses consultations. Jacques Serret, c'est un vrai défilé de personnalités à Matignon.
Oui, Elisabeth Borne multiplie les rendez-vous. Elle a reçu hier à Matignon deux anciens premiers ministres, Édouard Philippe et Bernard Cazeneuve. Elle s'est entretenue également avec les poids lourds de la majorité, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, le patron du Modem, François Bayrou, ainsi que Christophe Castaner, le président du groupe des députés La République En Marche, Stanislas Guérini, le délégué général du parti. Et Elisabeth Borne a eu au téléphone le président du Sénat, le républicain Gérard Larcher. Officiellement, je cite Matignon, la première ministre poursuit le travail d'élaboration de l'équipe gouvernementale. Alors rien ne filtre de cet échange, mais l'on imagine aisément la teneur de ces conversations, car la composition du prochain gouvernement fait l'objet d'intenses tractations. Il s'agit pour Elisabeth Borne, au-delà des compétences des personnalités politiques sélectionnées, de trouver un équilibre, montrer dès maintenant qu'elle écoute, qu'elle prend en compte les remarques de chacun de ses interlocuteurs. Démarche sincère ou pas, Elisabeth Borne a aussi échangé avec les partenaires sociaux et les présidents des associations d'élus, mais elle n'oublie pas la campagne des législatives. Un de ses conseillers confirme qu'elle se rendra bien en fin de semaine dans sa circonscription du Calvados.
Jacques Serret du service politique d'Europe.
Et justement, à propos de la campagne, ce sondage qui donne la nouvelle Union populaire écologique et sociale en tête.
Oui, avec une légère avance sur la majorité sortante lors du premier tour des législatives. Néanmoins, Ensemble garderait sa majorité au deuxième tour. Campagne à laquelle ne participera finalement pas Jérôme Peyra. Le candidat de la majorité, condamné pour violence conjugale, a retiré sa candidature en Dordogne.
Elisabeth Borne qui va se pencher sur ce premier dossier délicat de son ère avec ce plan social à Vallourec.
Ouais, le premier du nouveau quinquennat, le groupe fabricant de tubes va supprimer 3000 emplois en Europe, 320 à Saint-Saulve près de Valenciennes. Le site Vallourec est jugé non rentable et va tout simplement fermer.
C'est un nouveau revers judiciaire pour le groupe Lafarge. La cour d'appel de Paris a confirmé la mise en examen du cimentier pour complicité de crimes contre l'humanité.
Lafarge est soupçonné d'avoir versé en 2013 et en 2014 via sa filiale syrienne plusieurs millions d'euros à des groupes terroristes dont l'État islamique pour assurer la protection d'employés sur place. L'enquête a évalué que ces versements pourraient avoir atteint entre 4,8 et 10 millions d'euros pour le seul groupe État islamique.
Anissa nous le disait il y a quelques minutes, le thermomètre n'en finit plus de grimper et par ces fortes chaleurs qu'il fait bon de se balader dans les sous-bois. Mais avec les fortes chaleurs et la sécheresse qui frappent le pays, comment vont nos forêts?
Eh bien, c'est la question que se pose Europe 1 ce matin en partenariat avec le Pèlerin Magazine. Fragilisé par le réchauffement climatique, surexploité en raison des besoins croissants en bois dans le monde, eh bien, la forêt française pourrait bien, à l'avenir, avoir du mal à se régénérer. C'est pour ça qu'en ce moment, des experts sont en train de les cartographier grâce à des technologies de pointe. Élise Dangean.
Depuis déjà un an, les trois avions de l'IGN quadrillent la France, équipés de leur lidar haute densité, une technologie qui a remplacé la photographie aérienne. Ce laser permet d'identifier tout ce qui se trouve au sol de façon très fine. Des données traitées par l'équipe de techniciens d'information géographique dont Guillaume fait partie.
On a des classifications automatiques en fonction des angles, en fonction de ce que le laser tape. Il sait reconnaître ce qu'il y a au sol, quoi. Même les essences forestières.
Cette méthode donne une vision panoramique de l'état de nos forêts complémentaire aux inventaires menés au sol, selon Magali Jover, spécialiste forêt de l'IGN.
On pourrait croire comme ça, puisque l'inventaire nous dit que la surface forestière continue à augmenter en fait chaque année. Elle couvre 31% du territoire national. On pourrait se dire comme ça que la forêt va bien. Or, ce n'est pas le cas. On commence à constater une baisse de la production biologique annuelle et une mortalité qui augmente.
Pour l'heure, le lidar HD a couvert 20% du territoire. Coût total de l'opération sur 5 ans, 60 millions d'euros, avec à la clé des données capitales qui serviront notamment aux chercheurs et à l'élaboration de futures politiques publiques.
Élise Dangean pour Europe 1 et pour plus d'informations, on vous invite à lire Le Pèlerin aux arbres citoyens, titre l'hebdomadaire.
Voilà qui va vous intéresser si vous êtes en train de vous lever. Séance de sport pour bien démarrer la journée. Réveil musculaire ce matin sur Europe 1.
Ouais, et si faire du sport au travail était la solution pour diminuer les accidents en entreprise, 10 petites minutes suffisent. C'est ce qu'a constaté Jean-Luc Boujon qui s'est rendu chez Gerflor dans la Drôme.
Allez, on amène les bras vers le haut, on fléchit les genoux.
La scène est ordinaire dans les ateliers Gerflor. Avant chaque prise de poste, chacun des 400 ouvriers du site de production a droit à son petit quart d'heure de sport, même ceux qui embauchent à 4h du matin. Un éveil musculaire pour préparer le corps au travail physique, explique Sophie, coach professionnelle.
On étire tout le corps, donc on part du cou, épaules, tout le dos, par exemple la flexion du dos. On s'est adapté aux gestes répétitifs qu'ils font durant leur journée de travail.
Les exercices sont obligatoires et les salariés comme Rebecca, Caris, sont ravis.
C'est très bien, ça permet d'étendre les muscles avant de commencer, parce que nous, quand on monte sur le frontal, on tourne souvent la tête, quand on fait de la marche arrière, quand il y a la charge devant, on tourne, donc après ça fait des problèmes au trapèze, alors qu'avec l'éveil musculaire, on ne l'a pas. Avant, j'avais beaucoup de lumbago, et depuis que je fais l'éveil musculaire, j'ai plus de lumbago. C'est pour ça que c'est merveilleux.
Des bienfaits qui se traduisent effectivement sur l'accidentologie au travail, confirme le directeur manufacturing Emmanuel Arcondara, à l'origine du projet.
On a fortement réduit les problématiques de sécurité. On avait 6 à 7 accidents, ou des presque accidents, sur une année, et là, ces accidents ont totalement disparu.
Et l'initiative est tellement bénéfique que d'ici quelques semaines, ce sont les 400 salariés des bureaux qui vont s'y mettre. Saint-Paul-Trois-Châteaux, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Allez. Il manque juste au corps fluo.
Le petit bandeau
sur la lèvre.
Je suis pas encore équipé, mais...
Non, mais c'est une bonne idée, ceci. Ouais, ça détend les muscles.
Merci beaucoup. Lénaïque Monnier pour ce journal. On garde le rythme pour les courses. À présent, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. Direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour un Quintet Plus qui va se courir en semi-nocturne à 20h15. Et parmi les 16 partants, difficile de ne pas accorder un très large crédit à Goldino Bello, le numéro 14, expérimenté et qui reste d'ailleurs sur deux accessites dans cette catégorie des Quintets. Et sa régularité mériterait bien d'être enfin récompensée par une victoire. On lui opposera Royaumeau, le numéro 1, lauréat d'un quintet le 25 avril à Bordeaux, devant mon favori Goldino Bello, et qui malgré sa pénalité de 3 kilos, me semble être encore compétitif, avec Aïbari, le numéro 12, invaincu en deux sorties sur ce parcours, et qui dépend d'un entraînement dont tous les pensionnaires sont actuellement en net regain de forme. Ensuite, méfiez-vous des numéros 15, super Sonic, sachant finir ses courses, et 7, Exciting, qui n'a jamais été aussi bien qu'en ce moment, Dixit, son entourage. Enfin, les numéros 2, Hooking, 10, Fly Dasp, et 9, Caviar, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 14, As, 12, 15, 7, 2, 10 et 9.
Et vous retrouvez bien sûr ces pronostics sur europe1.fr, et ce dès maintenant. Merci beaucoup Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques qui racontaient à travers les archives d'Europe 1.
C'était un 19 mai comme aujourd'hui. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Laure, le 19 mai 1960 marque un moment fort dans la guerre froide. Les présidents américains et soviétiques Eisenhower et Khrouchtchev claquent la porte de la conférence internationale de Paris.
Oui, les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne sont réunis pour discuter du désarmement et de la situation en Allemagne, divisée alors en deux blocs par le rideau de fer. Cette réunion à quatre s'appelle la conférence au sommet. Et voici ce que dit le président soviétique Khrouchtchev à son arrivée, traduit par son interprète.
Espérons que la discussion des questions telles que le désarmement général est complet et la conclusion d'un traité de paix allemand, les rapports Est-Ouest sera profitable à la cause de la paix universelle.
L'ambassadeur du RSS en France présente quelques aspects de la ville de Paris à Khrouchtchev et dans la rue, les passants l'observent.
Vous êtes assez surprise probablement de le voir ici, vous ne l'attendiez pas.
Je me suis douté parce que j'ai vu arriver les voitures de la police alors. Le beau costume là, c'est Gromyko, non ?
Non, c'est le maréchal Malinowski.
Oh, il est superbe. Il a un uniforme utile. Hein.
Et monsieur Khrouchtchev salue au passage ces personnes qui lui ont fait un salut de la main.
Quant au président américain Eisenhower, il dit à son arrivée que les différences entre le monde libre, c'est comme ça qu'il l'appelle, entre le monde libre et l'Union soviétique sont graves et que la discussion ne sera pas facile.
Et justement, le président Khrouchtchev claque la porte avant que les pourparlers ne commencent.
Voilà, il met en avant un argument, une affaire d'espionnage. Un avion espion américain a été abattu peu de temps avant en territoire soviétique. Les discussions échouent. Eisenhower et Khrouchtchev s'en vont, partent chacun de leur côté. Le journaliste d'Europe 1, Julien Besançon, suit alors le convoi de Khrouchtchev et arrive cette scène surprenante. Sur la route, dans la Marne, Khrouchtchev voit des travailleurs en train de couper un arbre tombé sur la voie et il s'arrête.
Bonjour, dit Monsieur Khrouchtchev. Monsieur Khrouchtchev prend la hache.
C'est très bien, ça. On voit que c'est un homme qui sait travailler.
Oui,
j'étais ouvrier moi-même.
Et Khrouchtchev, un peu plus loin, dans un restaurant, répond à Julien Besançon.
Monsieur Khrouchtchev, nous apprenons à l'instant que le général de Gaulle va vous envoyer des motocyclistes pour vous demander si vous voulez bien venir à l'Elysée et si vous voulez bien rentrer à Paris pour assister probablement à une séance de la conférence au sommet. Qu'allez-vous faire maintenant ?
Tant que les Américains, tant qu'ils ne s'excusent pas d'avoir commis cet acte, nous ne pourrons pas.
Le général de Gaulle, lui, profitera de ce ratage diplomatique pour relancer le projet de coopération européenne.
Merci beaucoup, Lord d'Autriche, et à demain pour un nouveau jour où vous restez avec nous à suivre l'Espagne qui veut accorder un congé menstruel.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Excellent début de matinée, il est bientôt 5h44 sur Europe 1 et c'est inédit en Europe. Le gouvernement espagnol a présenté cette semaine un projet de loi pour créer un congé menstruel. Il s'adressera aux femmes souffrant de règles douloureuses et invalidantes. On en parle en ligne avec la journaliste Élise Thiébaud.
Bonjour Élise Thiébaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes également autrice et vous avez signé le livre « Ceci est mon sang, petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font » paru aux éditions de La Découverte. Des jours d'arrêt de travail couverts par la Sécurité sociale. Voilà le texte qui a donc été approuvé en Conseil des ministres en Espagne. Une première, effectivement, en Europe, mais ce congé menstruel existe déjà dans plusieurs pays asiatiques comme le Japon. Alors pour commencer, je voudrais simplement connaître votre réaction.
Alors, la première réaction, c'est que au Japon, ce congé qui existe depuis 1947 n'est pas rémunéré et n'est pris que par 1% des femmes. Donc, c'est quand même un petit peu une légende urbaine, le congé menstruel au Japon. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, évidemment, tout ce qui va dans le sens d'une prise en compte et en considération du cycle menstruel est une bonne chose parce que on contribue à la santé et au respect de la vie des personnes concernées. Donc ça, c'est une très bonne chose. Après, le fait de le cibler très précisément sur un certain groupe de femmes, un certain groupe de personnes qui sont particulièrement touchées par ces douleurs, ça présente un risque intrinsèque de discrimination. Et à ce titre, je pense qu'il faut faire attention. Moi, je suis à fond pour un congé menstruel, mais j'aimerais qu'en fait, il touche une population plus vaste. Une population, par exemple, de partir des conditions sociales des personnes concernées. Par exemple, les personnes qui se lèvent très tôt le matin pour aller travailler dans les bureaux. Les personnes qui travaillent dans la restauration, dans les supermarchés. Les personnes qui travaillent dans l'hôtellerie. Et en fait, grosso modo, les 80% qu'on a considérés comme exerçant un métier essentiel, ces personnes-là se trouvent en grande majorité être des femmes, en grande majorité être sous-payées, en grande majorité à faire des métiers difficiles. Et pour elles, il serait absolument indispensable de prendre en compte un congé menstruel qui évite de faire peser trop sur elles le poids de ce cycle qui, s'ajoutant par exemple à des troubles musculo-squelettiques, des fatigues ou des rythmes de travail très décalés, est difficile et particulièrement difficile à vivre.
Vous parliez de discrimination dans l'accès à l'emploi ?
Oui, bien sûr, parce que c'est un prétexte qui sera avancé très facilement de dire, bon alors déjà, il y a le risque de maternité. Ensuite, si en plus on doit leur donner un congé parce qu'elles ont des règles douloureuses, on ne va pas pouvoir s'organiser. Alors moi, j'aimerais bien rappeler qu'au 19e siècle, cet argument a été quand même avancé par les patrons pour empêcher qu'on passe de 48 heures à 40 heures, qu'on mette fin au travail des enfants, qu'on mette fin au salaire inférieur pour les femmes et évidemment pour résister à la possibilité d'avoir des congés payés. Donc ne partons pas tout de suite du point de vue des patrons, partons plutôt du point de vue des besoins. La question de la discrimination, elle existe de toute façon. De toute façon, les femmes sont discriminées sur le marché de l'emploi. Elles le sont de manière systémique et elles touchent encore aujourd'hui en termes de revenus 25% de moins que les hommes. Différentiel salarial de 12% dans le public et 15% dans le privé, quelque chose de ce genre.
Je souhaiterais citer la ministre espagnole de l'égalité. Comme toujours, quand les droits des femmes avancent, il y a un espace pour le débat. La société évolue, elle évolue doucement, vous venez encore de le dire. Pourtant, le réflexe patriarcal, lui, se perpétue en 2022.
La ministre espagnole a raison. C'est pourquoi il faut continuer à se battre pour un congé menstruel. Moi, mon idée du congé menstruel, c'est qu'il devrait être attribué à toute personne, indépendamment de son sexe, de son genre et de son âge. Parce que c'est la seule manière d'éviter d'avoir des discriminations.
Si mais est-ce que, Élise Thiébaud, est-ce qu'on doit forcément passer par une loi ? Ne doit-on pas laisser les entreprises s'emparer de la question du congé menstruel en interne ?
Alors, on pourrait, mais le fait est que si on les laisse faire comme ils le souhaitent en fonction de leurs priorités qui sont celles du maximum de profit, il y a peu de chances que ça fonctionne. Il existe des entreprises qui, en France, ont pris cette décision. Et c'est très bien parce que ça donne un exemple qu'on peut prendre une mesure comme celle-ci sans s'effondrer et sans affecter la productivité. J'allais dire même au contraire, parce qu'à partir du moment où on prend en compte le confort des personnes qui travaillent, on en a des résultats en termes de productivité tout à fait corrects.
L'an dernier, l'association Oser le Féminisme a qualifié le congé menstruel comme une fausse bonne idée en avançant l'argument qu'il faut d'abord en finir avec le tabou des règles, qu'elles soient banalisées, tout comme les protection hygiénique, parce que finalement, les femmes n'oseront pas demander un congé. Vous évoquiez le Japon un petit peu plus tôt. Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, je pense que tant qu'on conditionne l'accès à un droit à celui à un autre droit, on n'avance pas beaucoup. Et que si on dit, alors il faut d'abord supprimer le tabou des règles, qu'on m'explique comment on fait, parce que la question, le tabou, c'est une question anthropologique. Alors c'est un peu comme aller manifester à la station glaciaire contre les hivers rigoureux, ça n'amène pas grand-chose. On ne va pas supprimer ce tabou. En revanche, si on prend des mesures qui sont favorables à un meilleur confort tout de suite pour les personnes concernées, je trouve qu'il ne faut pas passer à côté en vertu de quelque chose d'autre qu'il faudrait atteindre et dont on sait qu'on est encore loin. Donc, en ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a pas de fausse bonne idée comme il n'y a pas de fausse joie. Quand on est joyeux, on est vraiment joyeux. Quand on a une idée, il peut s'avérer qu'elle est mauvaise à long terme. En attendant, elle va répondre à un besoin aujourd'hui.
Merci beaucoup, Élise Thiébaud, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1. Vous êtes journaliste et autrice notamment du livre « Ceci est mon sang, petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font » paru en 2017 aux éditions de La Découverte. Merci encore, bonne journée.
Bonne journée.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1 à 6h10, le journal permanent, Alban Le Prince.
La douche froide pour près de 3000 salariés de Vallourec dans le monde licenciés. En France, 320 postes sont concernés, dont une centaine dans la seule usine de Saint-Saulve dans le Nord qui ferme ses portes. Une réunion aura lieu demain en urgence avec la direction, les représentants du personnel et élus locaux. Confirmation de la mise en examen de Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité. Décision de la Cour d'appel de Paris. Hier, le cimentier français est accusé d'avoir versé des millions d'euros à des groupes terroristes en Syrie en 2013 et 2014 pour maintenir ses activités. Et puis, palme d'or surprise pour Tom Cruise hier au Festival de Cannes. L'acteur est arrivé en hélicoptère pour présenter le film événement de l'année, Top Gun Maverick, deuxième volet du film culte des années 80 en salle dès mercredi prochain avec Europe 1.
Allez, on passe à table avec Olivier Pouls.
Bonjour Olivier.
Bonjour Omblin, bonjour Julien.
Bonjour Olivier. Nous parlons des huiles aujourd'hui. On sait que depuis quelques semaines, il y a pénurie d'huile de tournesol dans les rayons. Mais nous allons voir qu'en matière d'huile végétale, il y a dans notre pays bien des solutions.
Et oui, parce que si pour cause de prix bas, du moins avant la crise, l'huile de tournesol était largement la plus consommée en France, et de loin, elle n'est pas la seule à mériter de figurer dans nos placards. Alors on pense évidemment à l'huile d'olive, plus fréquemment utilisée pour assaisonner que pour cuire, car elle perd ses saveurs en chauffant, il faut le savoir. Mais intéressons-nous à d'autres huiles bien françaises et pleines d'intérêt, alors que ce soit pour donner du goût à vos aliments ou pour les cuire. En voici donc quelques-unes. L'huile de colza, l'huile de noix ou de noisette, l'huile de pépins de raisin, l'huile de lin ou encore l'huile de cameline.
Commençons par l'huile de colza issue de cette plante toute jaune que l'on peut observer en traversant nos campagnes.
Ben oui, on la connaît depuis le Moyen-Âge et notre pays reste un des principaux producteurs de cette huile qui n'a pas toujours eu bonne réputation. Elle mérite pourtant qu'on s'y intéresse pour deux raisons. La première, elle est très riche en vitamine E et oméga 3, c'est donc bon pour votre santé. La seconde, elle offre des saveurs intéressantes avec une petite note un peu de chou, de navet, qui se marie très bien avec les légumes. On peut la chauffer, mais attention, pas plus de 150 degrés. Il ne faut surtout pas l'acheter raffinée, mais vierge, donc pas de traitement et une extraction à froid, ce qui est d'ailleurs valable pour toutes les huiles, si on veut profiter de leurs bienfaits, mais surtout de leur saveur.
Concernant l'huile de pépins de raisin à présent.
Alors ça, c'est une huile assez récente et qui elle aussi est très intéressante. Elle est riche en polyphénol. On loue ses qualités donc antioxydantes. En termes de goût, elle est assez neutre. Alors c'est bien pour une mayonnaise ou éventuellement pour y faire infuser des herbes ou des épices. Elle résiste bien pour le coup à la cuisson et tolère une bonne montée en température, ce qui fait que vous pouvez l'utiliser pour des fritures.
Alors on va parler de l'huile de noix et Olivier, un produit plutôt chic et haut de gamme qui a de plus en plus d'adeptes.
Oui, avec une personnalité affirmée, on trouve même une appellation d'origine protégée pour l'huile de noix du Périgord. C'est un produit à utiliser comme condiment et à ne surtout pas chauffer. C'est une huile puissante, bien marquée en goût. Un filet sur une poêlée de légumes ou sur un fromage de chèvre suffit à relever tout ça. Elle est l'une des plus riches en oméga 3 et 6, donc excellente là aussi pour la santé. Du transit intestinal à la prévention des maladies cardiovasculaires, elle est parée de nombreuses vertus. Attention, elle s'oxyde très vite et ne se conserve donc pas longtemps une fois que la bouteille a été ouverte.
Alors on a vu l'huile de colza, l'huile de pépins de raisin, l'huile de noix, une petite dernière.
Ah oui, l'huile de cameline, je ne sais pas si vous la connaissez celle-là. Alors c'est issu d'une petite plante jaune, elle est connue depuis plus de 3000 ans. Elle a un petit goût de noisette, de sésame, une pointe végétale qui fait merveille dans les vinaigrettes. C'est une huile à utiliser exclusivement à froid, comme l'huile de noix donc, car elle rancit rapidement. Alors n'hésitez pas à jouer avec toutes ces saveurs, toutes ces huiles made in France. Alors elles sont certes plus chères que l'huile de tournesol, mais elles apporteront des saveurs nouvelles à vos préparations. Et puis bah écoutez, laissez-vous guider dans ces saveurs. Je vous garantis qu'il y a des choses très intéressantes à découvrir.
Merci Olivier.
Bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h58, dans un instant la météo, le journal et une équation.
Oui, comment faire tourner nos hôpitaux pendant les vacances alors qu'ils sont d'ores et déjà au bord de l'implosion? C'est effectivement l'équation difficile, voire impossible à résoudre, qui est sur le bureau du futur ministre de la Santé. C'est simple, il ne se passe plus un jour sans qu'un CHU n'annonce, faute de soignants, la fermeture totale ou partielle de ses urgences. Alors on ose imaginer ce que ça va donner en juillet-août. Nos hôpitaux vont-ils survivre à l'été? Quelles mesures prendre pour qu'il y ait suffisamment de bouse blanche au cœur de nos vacances? On en parle dans une dizaine de minutes avec notre invité, le Frédéric Valtoux, le président de la Fédération hospitalière de France. Et puis ensuite, on écoutera attentivement votre partition, Emeline.
Les 50 ans de l'album On Qui Château d'Elton John aujourd'hui. Nous retournerons au château d'Hérouville à une demi-heure au nord de Paris où cet album a été enregistré au programme Musique Tennis. Et repas copieux dans la partition dans 20 minutes.
Mais avant la météo, Anissa Haddadi, on respire un peu mieux.
Oui, il va faire moins chaud sur le nord-ouest hein, seulement. 18 à Cherbourg, 19 à Brest, 24 à Lille, 26 à Paris. Ça va un peu mieux au nord, effectivement. En Bretagne et Normandie, on a un ciel couvert ce matin avec encore des petites averses. Vous aurez des éclaircies cet après-midi. Entre les Pays de la Loire et la région parisienne, on a encore quelques foyers orageux aujourd'hui. Et le ciel va rester voilé toute la journée. Et puis, du Grand Est aux Alpes, alors là, il va faire très chaud. 30 à Saint-Étienne, 31 à Colmar, 32 à Lille et à Strasbourg. Des orages parfois violents arrivent cet après-midi sur le nord-est et puis sur la moitié sud. Sur la moitié sud, c'est du très beau temps toute la journée. 27 à Bastia, 28 à Limoges, 29 à Toulouse, 32 pour Albi.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1 et on vous en remercie. Nous sommes le jeudi 19 mai. Et il est 6h. Elle recouvre un tiers de la France, la forêt, des espaces naturels menacés par la filière bois. Les associations dénoncent une industrialisation de la forêt. Reportage près du Mans dans un instant. C'est l'annonce que redoutaient les salariés de Vallourec dans le Nord. Le groupe ferme le site d'ici la fin de l'année et supprime 320 postes dans toute la France. Un coup de massue pour ses employés que vous entendrez dans le journal. Et puis nous partirons en Martinique où l'opérateur Free s'installe et casse les prix. Des forfaits 6 fois moins chers en pleine bataille pour le pouvoir d'achat.
Matin, Omblin Roche.
Roche et Julien Pierce.
Le journal de 6h vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Comment vont nos forêts françaises? C'est le dossier d'Europe 1 ce matin en partenariat avec Le Pèlerin. Sur la carte, les trois quarts de nos forêts sont privées, des réserves naturelles menacées par les coupes rases.
Un phénomène tantôt nécessaire, souvent abusif, qui consiste à supprimer entièrement une parcelle d'arbres de la cime jusqu'au sol.
Et à la place, les propriétaires privilégient souvent une seule espèce d'arbre pour un plus grand rendement de la filière bois. Et tant pis pour la biodiversité. Face aux industriels, des associations se mobilisent, comme au Mans où des militants ont guidé en forêt notre reporter Mathieu Limongi.
Une départementale en plein milieu de la Sarthe, autour une forêt verdoyante qui masque le soleil. Mais quelques kilomètres plus loin, les arbres ont laissé place à un paysage désertique.
Mais ça n'a pas repoussé depuis. Le sol est jauni. On va tourner, on va aller voir.
Sylvain Agerand est ingénieur forestier et coordinateur des campagnes pour Canopée, une association qui milite pour une sylviculture plus durable.
Alors ici, on est vraiment sur une situation qui est très pédagogique. On est dans une forêt d'un des principaux représentants de la filière bois. Tout a été rasé. Il n'y a plus un seul arbre sur plusieurs dizaines d'hectares. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les souches des arbres ont été déracinées. Tout l'écosystème est cassé.
L'arbre le plus souvent replanté, c'est le Douglas, un résineux qui pousse vite, facile à travailler et donc très prisé des industriels.
Quand vous remplacez une forêt diversifiée par une monoculture de Douglas, vous aggravez le changement climatique. Quand vous rasez une forêt, vous libérez d'un seul coup tout le carbone qui était stocké dans les arbres et dans le sol. Et le pari qui est fait, c'est de dire c'est pas grave, on va replanter, les arbres vont repousser. Sauf que le deuxième problème, c'est que ces jeunes arbres, ils sont mis en plein cagnard et bien souvent, ils meurent.
Et quand ces arbres meurent, certaines parcelles devenues non rentables sont même parfois abandonnées par leurs propriétaires.
Le reportage de Mathieu Limongi, envoyé spécial près du Mans pour Europe 1. 6h02, l'amertume, la colère et même la tristesse, un réveil douloureux pour les salariés de l'usine Vallourec de Saint-Solve dans le Nord. Le groupe a annoncé hier la fermeture du site.
104 personnes vont perdre leur emploi d'ici la fin de l'année. L'usine où l'on fabrique des tubes n'est plus assez rentable, en tout cas selon la direction qui supprime au total 320 postes en France.
Une annonce redoutée par les salariés 2 ans après le dernier plan social. Frédéric a 42 ans, il a passé près de la moitié de sa vie dans l'usine de Saint-Solve.
On s'y attendait, mais c'est le coup de massue, quoi. C'est forcément le coup de massue et c'est compliqué à gérer, quoi. Puis le nombre de familles impactées derrière, c'est énorme, quoi. Là, je crois qu'on nous a annoncé en tout 320 personnes. C'est pas rien, quoi. C'est 320 familles, plus à côté, des prestataires sur le côté qui sont impactés aussi. Donc ça a de lourdes conséquences pour tout le monde, quoi.
Comment la direction justifie-t-elle cette décision ?
Entre ce qu'ils expliquent et ce que nous on pense, ils veulent plus de Vallourec en Europe, quoi, clairement. À terme, ça va être ça, on en est convaincus. Hein. Moi, je pense vraiment que parce qu'on coûte trop cher, enfin à leur dire.
Qu'est-ce qui compte maintenant ?
Bah, partir avec un plan, avec ce qu'on mérite. Avec le nombre d'années qu'on a passé ici. Et puis derrière, retrouver du travail rapidement. Quoi. On ne veut pas rester comme ça. Le chômage, ce n'est pas une option pour nous.
Le témoignage de Frédéric au micro de notre correspondant Lionel Gougelot. Plus de 300 emplois supprimés en France, 3000 à l'échelle de l'Europe. Bercy demande au groupe de minimiser, je cite, les conséquences de ce plan social sur les activités françaises.
Un dossier qui fera partie des priorités du futur gouvernement qu'on devrait connaître d'ici demain.
À Matignon, les consultations se poursuivent. Dîner hier soir entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Autour de la chef du gouvernement, une équipe a priori resserrée qui pourrait être annoncée aujourd'hui avant un conseil des ministres demain. La première ministre passera ensuite son week-end dans le Calvados où elle se présente pour LREM aux législatives.
La majorité présidentielle talonnée par la NUPES, l'alliance de la gauche.
Oui, la nouvelle Union populaire qui se réunit d'ailleurs aujourd'hui à 11h à Paris pour présenter son projet de gouvernement en cas de majorité le soir du second tour. C'est en tout cas l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, même si dans ce combat, le leader insoumis semble bien seul, Alexis de la Fontaine.
Oui, que ce soit Roussel, Jadot ou Hidalgo, les perdants de la gauche à la présidentielle se font bien discrets. Anne Hidalgo, de retour par la petite porte à la mairie de Paris, espère reconquérir sa majorité municipale après le naufrage de sa campagne. Ses rares prises de position nationales ciblent l'union de la gauche ou soutiennent les candidatures dissidentes comme Lamia et Larage. Pour Jadot, c'est la traversée du désert, tacle un écolo. Le député européen, muet depuis sa défaite, est persona non grata dans la NUPES. Jadot ne va pas soutenir Mélenchon et les insoumis ne veulent pas de son soutien, résume un de ses proches. Fabien Roussel joue quant à lui un jeu dangereux. Investi par la NUPES, il dénonce le soutien de Jean-Luc Mélenchon à Tahabouafs. S'attirant les foudres des insoumis, son égo n'est pas redescendu depuis la présidentielle, tacle un cadre. Bref, ses amis ne cherchent pas vraiment à l'aider.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
Et à 6h05 sur Europe 1, on part aux Antilles. Les Antilles avec ce bouleversement dans le quotidien des Français ultramarins. L'opérateur Free s'installe et casse les prix.
Oui, une dizaine d'euros désormais pour un forfait de téléphone, disponible donc aux Antilles, aussi en Guyane. Un prix réduit qui devrait soulager le porte-monnaie de la population. Notre correspondant, Florin Aussu, a tendu son micro au Martiniquais, une île où, comme dans l'Hexagone, l'inflation galope.
Payer 60 euros un forfait téléphone chaque mois, c'est juste plus possible. Donc oui, j'attendais la venue de Free avec impatience.
Avec un salaire de 1400 euros par mois, Muriel est obligée de surveiller de près chaque poste de dépense incompressible. Et c'est bien pour proposer une alternative que Free joue la carte de l'offre agressive des tarifs 6 fois moins chers que ses concurrents. Véronique fait partie de ces Martiniquais dont le pouvoir d'achat ne fait que baisser. Alors forcément, elle aussi sera intéressée.
L'essence coûte presque 2 euros le litre, hein. La nourriture coûte de plus en plus cher, ça augmente chaque mois, les prix des billets d'avion aussi. Donc si au moins on peut économiser sur le téléphone, c'est déjà ça.
Des économies, oui, mais pas à n'importe quel prix. Steve, père de famille, n'est pas sûr de se laisser tenter.
Il faut vraiment voir aussi la qualité qu'ils vont proposer, parce que payer 10 euros par mois, c'est clairement une belle affaire, mais il faut que le réseau soit bon, qu'on puisse capter partout en Martinique, sinon ça vaut pas le coup, quoi.
Dans un territoire où 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté, l'arrivée d'un opérateur low cost pourrait malgré tout changer la donne. À Fort-de-France, Florin Aussu, Europe 1.
Merci beaucoup Romain Oquet pour ce journal complet.
Il est 6h06 et on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports avec vous, Martin Lange. Et football pour démarrer, la victoire hier soir de Francfort en finale de l'Europa League.
Oui, vous entendez hein, la joie des supporters allemands après le dernier tir au but marqué par le Colombien Santos Borré. Francfort s'impose donc au bout de la nuit contre les Glasgow Rangers. Un partout après 90 minutes, il aura fallu les tirs au but pour départager les deux équipes. Et c'est l'ancien gardien parisien Kevin Trapp qui a fait la différence. 42 ans après, l'Eintracht Francfort décroche une deuxième Coupe d'Europe. Retour en France et Angers va passer sous pavillon américain. Le président Saïd Chaban a annoncé hier qu'il allait céder le SCO à un fonds d'investissement américain, montant de l'opération entre 65 et 85 millions d'euros. Enfin, Didier Deschamps dévoile cet après-midi la liste des joueurs qui vont préparer les 4 matchs de Ligue des Nations début juin. Peu de surprises à attendre, mais on guettera tout de même la présence ou non d'Olivier Giroud.
On passe au tennis, Martin, avec des qualifications difficiles à Roland-Garros pour le clan tricolore.
Oui, ils étaient 27 au départ et ils n'en sont plus que 3 Français au 3e et dernier tour des qualifications. Shane Kenin, Océane Babel et Geoffroy Blancano. Blancano, justement, dernier tricolore qualifié hier, a eu besoin de 3 sets face au Britannique Brody. Mais cette victoire fait du bien, écoutez.
Ça fait vraiment du bien, ouais. Ça fait plaisir de gagner encore un match comme ça, avec les émotions, le public, des retournements de situation, c'est vraiment super. Moi, je suis vraiment heureux et épuisé surtout.
Geoffrey Blancano au micro d'Axel May a noté aussi hier la présence à l'entraînement de Rafael Nadal. 6 jours seulement après son élimination à Rome, l'Espagnol n'a pas semblé gêné par sa blessure au pied.
En bref, pour finir...
Du cyclisme avec la déception d'Arnaud Démare hier sur le Tour d'Italie. Le Français n'a pu faire mieux que 4e de la 11e étape. C'est l'Italien Dainese qui s'est imposé. L'Espagnol Lopez reste en rose. Enfin, un mot de hockey sur glace et une bonne nouvelle. L'équipe de France conserve sa place dans l'élite mondiale. Les Bleus ont battu hier l'Italie 2-1 après prolongation.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Vous restez avec nous dans un instant. Nos hôpitaux déjà en surchauffe alors que les vacances d'été n'ont pas commencé. On en parle dans une minute avec Frédéric Valtou, le président de la Fédération hospitalière de France. A tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Il est 6h11, vous écoutez Europe 1 et votre invité Julien est le président de la Fédération hospitalière de France, la FHF, qui organise le salon Santé Expo dont c'est le dernier jour à la porte de Versailles à Paris.
Bonjour Frédéric Valtou.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous alors qu'on le constate tous depuis quelques jours. L'été s'est invité avant l'heure, ça vaut pour les températures, mais aussi pour nos hôpitaux où les annonces de services qui ferment totalement ou partiellement se multiplient. On parlait hier ici même des urgences du CHU de Bordeaux qui ne sont désormais plus accessibles la nuit. Et à cette situation déjà très tendue s'ajoute la question des plannings pour juillet-août. Frédéric Valtou, est-ce qu'on s'oriente vers une pénurie historique de blouses blanches cet été ?
Il ne faut évidemment pas le souhaiter. Mais néanmoins, il faut considérer qu'effectivement, jamais on n'avait connu au printemps de telles tensions. En général, ces tensions-là, on était habitué à les connaître au creux de l'été, c'est-à-dire vraiment au cœur de l'été, pardon, c'est-à-dire vraiment au début août, et voire même à la fin de l'année entre Noël et Jour de l'An, c'est-à-dire au moment où, parce que beaucoup de gens partent en vacances, quand je dis beaucoup de gens, beaucoup de soignants partent en vacances, c'est sur l'hôpital que repose la mission de soins. Et à un moment où l'hôpital lui-même est soumis à des difficultés de planning. Là, voir cette situation dès le printemps, effectivement, nous renvoie à un été qui va être compliqué. Et dans les hôpitaux, on essaie déjà de faire les plannings de l'été. On voit que c'est compliqué pour maintenir des lignes de médicales qui vont permettre, qui pourraient permettre de faire tourner les urgences 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Donc, et il n'y a pas que les urgences qui sont, pardonnez-moi de vous interrompre, mais il n'y a pas que les urgences qui sont concernées, puisque certains services, certains établissements de gériatrie, par exemple, annoncent d'ores et déjà qu'ils vont fermer faute de soignants.
Il y a aujourd'hui à peu près 3/4 des hôpitaux qui ont d'ores et déjà diminué leur capacité d'accueil de patients, quels que soient les services. Effectivement, ce n'est pas simplement que des urgences. Et il y a aujourd'hui une bonne centaine de services d'urgence qui ont déjà diminué leurs amplitudes horaires. Donc on voit une centaine de services d'urgence sur plus de 600. Donc on voit qu'effectivement, la tension elle est extrême, ce qui nous fait craindre un été compliqué. Oui, c'est une situation réellement jamais vue.
Alors que faire ? Comment faire tourner nos hôpitaux cet été, alors que ça tient déjà du miracle hors période de vacances ?
Il faudrait que tout le monde, conscient de cette situation, se mette autour de la table. Quand je dis tout le monde, c'est tous les soignants dans les territoires se mettent autour de la table pour essayer que chacun prenne un peu sa part de l'exercice. C'est-à-dire peut-être qu'on voit avec les professionnels de ville comment on peut organiser sur juillet-août l'étalement des vacances de manière à éviter ces périodes de creux. On va être obligé cet été de trouver des solutions qui sont des solutions, je ne vais pas dire de bout de ficelle, mais en tous les cas, des solutions inventées, bassin de vie par bassin de vie, pour essayer de passer les moments difficiles sans trop de casse.
Voire réquisitionner.
Alors réquisitionner, il ne faudra peut-être pas aller jusque-là, mais on devrait pouvoir, et on demande que les agences régionales de santé commencent le travail tout de suite, on est au mois de mai, on a le temps de s'y préparer, à voir comment on peut éviter ces moments où on concentre les vacances entre les pour les soignants, mais voir plutôt comment on peut étaler les choses. Donc c'est un appel qu'on a lancé, nous, à la médecine de ville, pour voir s'il était possible, je le redis, bassin de vie par bassin de vie, pour voir envisager, effectivement, d'assurer tous ensemble une permanence des soins qui soit plus efficace et qui évite des moments d'extrême tension. L'hôpital est très fragile après 2 ans de lutte contre la Covid, de mobilisation avec des organisations qui ont été chamboulées, des plannings qui ont été défaits. Les hospitaliers sont effectivement épuisés, le taux d'absentéisme est plus élevé que d'habitude, ce qui explique ces tensions sur les personnels. Mmh. Et je pense que la réponse, elle est vraiment à trouver dans la coordination de l'ensemble des soignants, qu'ils soient publics ou privés.
Il y a un manque de solidarité de la part de la médecine de ville vis-à-vis de la situation dans les hôpitaux ?
Non, c'est pas un manque de solidarité. Les médecins de ville prennent leur part au travail.
Ils ne sont pas responsables de la situation.
Ah, bien sûr que non. Ils ne sont pas responsables de la situation. Ils sont d'autant moins responsables qu'ils sont eux-mêmes de moins en moins nombreux. La médecine de ville connaît aussi une grave crise, une crise des vocations. Il y a de moins en moins, par exemple, de généralistes. Juste un chiffre, hein. On a perdu 6 000 généralistes ces 10 dernières années. 6 000 généralistes ces 10 dernières années, on va en perdre encore 6 000 les 5 prochaines années. Donc on voit bien que la tension elle est aussi très forte dans les cabinets de ville où il y a plus de départs à la retraite que d'installation de nouveaux médecins. Et donc on voit bien que c'est tout notre système de santé en ce moment qui est en train de prendre l'eau. Et donc il va falloir effectivement passer l'été en se serrant le coude tous ensemble pour faire face. C'est ce qu'on souhaite, nous.
Alors il y a d'autres options qui sont aussi sur la table. Nouvelle majoration des heures supplémentaires, paiement des congés non pris, voire, vous l'avez parlé, réquisition des médecins de ville ou du personnel des cliniques. Et il y a une dernière option, réintégrer les soignants suspendus, tous ceux qui refusent de se faire vacciner contre le Covid. Vous en pensez quoi ? On parle de 15 000 personnes, là.
J'y suis pas très favorable. Je pense que les personnes qui ont été exclues, et c'est vraiment une infime minorité par rapport à la masse des soignants qui font tourner notre système de santé, sont des gens qui ont refusé de rentrer dans une vaccination, c'est-à-dire dans une protection, non pas simplement d'eux-mêmes, mais des personnes qu'ils prennent en charge et qui, effectivement, ont montré peut-être qu'ils n'étaient pas tout à fait à même d'être à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Les soignants ont déjà une couverture vaccinale plus large. Il y avait une urgence il y a quelques mois à ce qu'effectivement le niveau de protection soit maximum, et cette obligation qui a pesé sur les soignants, certains pour des raisons diverses ont refusé d'y aller. Je pense que les réintégrer aujourd'hui, ce serait incompréhensible vis-à-vis de la très, très, très grande masse des soignants qui, eux, sont rentrés dans la vaccination. Mmh. Et on parle de quelques milliers, c'est-à-dire de pas grand-chose par rapport à ce qu'est l'ampleur du besoin aujourd'hui. Je rappelle juste que il faudrait aujourd'hui, pour que les effectifs de l'hôpital soient complètement servis, il faudrait embaucher 25 000 personnes dans les services hospitaliers. Donc on voit bien que les soignants qui manquent sont très nombreux, beaucoup plus nombreux que les quelques milliers de soignants qui, effectivement, ont été mis de côté compte tenu de leur refus de vaccination.
J'imagine que dans ce contexte, Frédéric Valletoux, vous attendez beaucoup du futur ministre de la Santé ?
On attend beaucoup du quinquennat qui démarre. C'est pas le ministre de la Santé tout seul qui fera la réussite du sujet. La santé doit être un des grands enjeux du quinquennat qui vient, parce que notre système de santé, sans rentrer dans trop de détails, effectivement, prend l'eau, aussi bien la médecine de ville que la médecine hospitalière.
Et justement, est-ce qu'on n'a pas perdu 3 semaines là, de tergiversation entre le second tour et la nomination qui est imminente ?
Ce qui va être important, c'est la manière dont, dès les premières semaines, c'est-à-dire dès l'été prochain, ce nouvel gouvernement, le président de la République, veille à ce qu'on prenne à bras-le-corps ce sujet de la santé. Il a annoncé un grand rendez-vous sur l'accès aux soins, c'est-à-dire mettre autour de la table tous les professionnels pour très vite, dès l'automne, engager un certain nombre de réformes pour permettre de résoudre cette question très difficile de l'accès aux soins pour les Français. Donc, dès les premières semaines, les signaux qui vont être donnés sont importants. Vous avez effectivement dit parler de revalorisation des salaires, c'est un des sujets. Revalorisation des gardes de nuit, c'est aussi un des sujets. Mmh. Les gardes de nuit, les astreintes sont trop mal payées. Et donc, il y a eu un premier effort financier de fait avec le Ségur de la Santé. Il faut aujourd'hui aller plus loin. Donc, il y a des rendez-vous qui doivent être inscrits dès le début du quinquennat qui sont importants.
Eh bien, on jugera sur pièce, Frédéric Valletoux. On jugera dans les semaines qui viennent l'action du futur gouvernement. Merci beaucoup, Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous souhaite une excellente journée.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
6h19 sur Europe 1, les titres, Alban Le Prince.
Ils échappent à la cour d'assises. Les deux personnes accusées d'avoir tué un chauffeur de bus à Bayonne il y a 2 ans seront finalement jugées pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, décision du juge d'instruction hier. Les élèves français progressent. Le Figaro révèle les résultats des évaluations de mi-CP. Ils sont meilleurs que l'année dernière. Plus de 8 élèves sur 10 savent lire à voix haute. En mathématiques, la comparaison de nombre et l'épreuve la plus réussie. À Roland-Garros, tirage au sort des affiches du tournoi. Ce soir, des duels qui seront à suivre sur Europe 1, radio partenaire. En attendant, les qualifications continuent avec un Français. Aujourd'hui, Sean Quinin affrontera l'Italien Giulio Zeppieri.
Votre partition aujourd'hui, Omblin, nous ramène il y a 50 ans. Elton John sortait l'album qui allait faire de lui une star internationale, Honky Château. Bags last night, pre-flight,
0 hour, 9 a.m. Alors si sa popularité n'est plus à faire en Angleterre, ce 5e disque Honky Château permet à Elton John d'atteindre pour la première fois le sommet des charts aux États-Unis. Il est enregistré en janvier 1972 en France, au château d'Hérouville dans le Val-d'Oise.
Lorsqu'Elton John se lance dans l'écriture de son nouvel album à la fin de l'année 71, il a des envies d'ailleurs, il veut quitter l'Angleterre.
Oui, pour échapper au fisc, hein, on va pas se mentir, il veut finalement suivre l'exemple d'un de ses groupes favoris dont on a parlé ici même jeudi dernier. Les Rolling Stones étaient en France quelques mois plus tôt. Ils avaient élu domicile à Villefranche-sur-Mer dans la villa Nelcote, louée par Keith Richards. Grâce à un studio mobile, ils ont pu enregistrer le bientôt célèbre Exile on Main Street.
Sauf qu'au moment où Elton John souhaite traverser la Manche, aucun studio mobile n'est disponible.
Les Rolling Stones ont déjà loué le leur à d'autres groupes. Et c'est là qu'intervient le producteur du chanteur, Gus Dudgeon. Il a entendu parler des sessions d'enregistrement du groupe Grateful Dead dans un château équipé d'un studio à une demi-heure de Paris. Turn around and say good morning to the night.
Le château d'Hérouville est un ancien relais de poste construit il y a plus de 300 ans.
Il a abrité les amours de Georges Sand et Chopin. Il a été racheté par le compositeur Michel Magne, à qui on doit notamment les musiques des films Les Tontons Flingueurs et Fantomas. En 1962, Michel Magne a aménagé un studio d'enregistrement à la qualité alors inégalable.
Pour Elton John et ses musiciens, sa Dream Team, comme il l'appelle, c'est le paradis sur Terre.
Oui, le château est équipé également d'une piscine, d'un court de tennis et d'un vignoble. Elton John ne parle pas français, mais il sait parfaitement prononcer vin blanc. L'ambiance est à la fois studieuse et joyeuse. Elton John loue 4 voitures Renault pour aller se balader, notamment dans Paris, mais le mauvais temps les assigne à résidence. On est en plein hiver. Lorsque le chanteur reviendra à Hérouville, les Renault seront remplacés par des Rolls et des Bentley.
Ah oui, on joue de la musique à Hérouville et on mange bien.
Oui, le cuisinier Serge Moreau nourrit tout ce petit monde avec des grands classiques, des rôtis, des plats en sauce. Un jour, il leur cuisine du gras double à la crème et au calvados. Quand les musiciens comprennent que ce sont des tripes, impossible de les faire retourner à table. Avec l'estomac bien rempli les autres jours, Elton John signe à Hérouville l'un de ses plus grands albums. Extrait de l'album Honky Château. Comme le château français d'Hérouville, Elton John y retournera pour enregistrer ses 2 disques suivants. Honky Château est sorti il y a 50 ans, le 19 mai 1972.
Merci beaucoup Omblin. Vous restez avec nous dans un instant. Dimitri Pavlenko sera là pour poursuivre cette matinale. A tout de suite.
Europe Matin.
Il est 6h27 et on vous souhaite de passer une très belle matinée à l'écoute d'Europe 1.
Et on vous dit à demain à partir de 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour Dimitri.